Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, la route inconnue, énième épisode. Bienvenue à bord, votre magazine de poésie vivante vous réserve encore de jolis moments, du moins nous l'espérons. Aussi retrouverez-vous nos chroniqueurs talentueux et fidèles, Cécile Guivarche, Claude Verset et Patrick Jockel. Je lirai pour ma part quelques poèmes du tout nouveau livre de François de Cornière, publié aux éditions du Castor Astral, Nageur du Petit Matin, qui est incontestable l'un des événements éditoriaux du mois, peut-être même de l'année. Mais avant cela, je vous invite à vivre un moment de poésie sonore. Arrêt du temps des haïkus de Jean Antonini, mis en musique par Jacques-Marie Bernard. Jean Antonini, l'un des haïjins francophones les plus actifs et talentueux, chronique tous les mois dans La Route Inconnue, mais il convient de ne pas oublier qu'à l'instar de ses collègues Touzey, Jacquemot, Guivarche, Verset, Jockel, il est avant tout poète. Arrêt du temps, des poèmes de Jean Antonini sur une musique de Jacques-Marie Bernard.
Toujours commencer, ne jamais achever. Est-ce la même chose? Toujours commencer, ne jamais achever. Est-ce la même chose? Les vaches autrefois dormaient dans les maisons avec les humains. Les vaches autrefois dormaient dans les maisons avec les humains. Au mont Yoshino, on pouvait voir d'un regard mille cerisiers fleuris. On pouvait voir. Je pose la main sur la barrière, là où elle la posait. Je pose la main sur la barrière, là où elle la posait. Beau soir d'automne, ils allaient au bord des fleuves pour s'embrasser. Feuilles de frêne jaune la faisaient tourner entre les doigts. Lumière du soir. Feuilles de frêne jaune la faisaient tourner entre les doigts. L'âme de mon fils. D'un fourré jaillit papillon blanc qui se perd au loin. L'âme de mon fils. D'un fourré jaillit papillon blanc qui se perd au loin. Et pris rendez-vous avec les pivoines en fleurs, 12 avril midi. Et pris rendez-vous avec les pivoines en fleurs, 12 avril midi. Lisant dans l'herbe. Quel dommage de n'avoir jamais vu une baleine. Lisant dans l'herbe. Le chant du pinson. Que l'univers est beau, disait-il en regardant un écran carré. Nous habitions une maison vide située très loin d'ici. Pour déménager, plier le paysage en trois dans la mémoire. dans la mémoire. Dans la mémoire.
Cheveux grisonnants.
Dans la mémoire.
Une valise dans chaque main.
Exactement.
Dans la mémoire.
Pareil. Dans la mémoire.
Cheveux grisonnants.
Dans la mémoire.
Une valise
dans chaque
mémoire.
Main. Exactement.
Par la mémoire. En voyage, le poète se demande pourquoi la poésie est-elle cruciale. En voyage, le poète se demande pourquoi la poésie est-elle cruciale.
Pour poète se demande, pour poète se demande, pour poète se demande, pour poète se demande,
page.
Pour poète se demande,
rien ne venait.
Pour poète se demande,
rien de bien.
Poète se demande,
il tapotait la page.
Pour poète se demande, pour poète se demande, pour poète se demande.
Eclosellsatte. Gen veteran d'ein soignis,
veteran d'ein soignis,
une langue inconnue,
veteran d'ein soignis,
veteran d'ein soignis,
veteran d'ein soignis,
veteran d'ein soignis,
veteran
d'ein soignis,
veteran
d'ein soignis,
veteran d'ein soignis,
veteran d'ein soignis. Impossible de distinguer le oui du non. Galaxie. Impossible de distinguer le oui du non.
Galaxie.
Supermarché City. Caisses automatiques parlent en quatre langues. Supermarché City.
City.
Caisses automatiques parlent en quatre langues.
City. City.
City. Milliers de feuilles blanches
City.
Volant parmi les cendres City. Noires
City.
Des deux tours.
City.
Milliers
City.
De feuilles blanches
City.
Volant parmi les cendres
City.
Noires des deux tours. Se laisser glisser dans la fatigue. Fatigue mauve. Devenir mauve. Se laisser glisser dans la fatigue. Fatigue mauve.
Fatigue.
Devenir mauve.
Fatigue.
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 Fatigue. Votre mari à présent.
Fatigue.
Un objet radioactif.
Fatigue.
Je l'aime, je l'aime. Votre mari à présent, un objet radioactif. Je l'aime,
Ptif.
Je l'aime, je l'aime,
Ptif.
Je l'aime,
Ptif.
Je l'aime,
Ptif.
Cet oiseau là-bas.
Je l'aime,
Ptif. Était-ce un rouge-gorge?
Ptif.
Je l'aime. Était-ce un rouge-gorge? Cet oiseau là-bas. Était-ce un rouge-gorge? Était-ce un rouge-gorge? Était-ce un rouge-gorge? Était-ce un rouge-gorge? En filmant la terre, elle pensait la transformer en fine pellicule.
Pellicule.
En
pellicule.
Filmant la terre,
pellicule.
Elle pensait la transformer
pellicule.
En
pellicule.
Fine pellicule.
Pellicule. Pellicule. Pellicule.
Sauter en l'air. De notre voyage dans l'univers, nous fîmes un livre. Sauter en l'air. De notre voyage dans l'univers, nous fîmes un livre. Fil entortillé autour de notre absence. Coucher du soleil. Fil entortillé autour de notre absence. Coucher du soleil.
Coucher.
Coucher. Durant
coucher.
Une année.
Coucher.
J'ai cherché à
coucher.
Retrouver le
coucher.
Mot seringa.
Coucher.
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 Du cerisier,
couché,
toutes les branches coupées,
couché,
plus de fleurs, de fleurs. Du cerisier, toutes les branches coupées, plus de fleurs, de fleurs, de fleurs, de
l'été,
fleurs.
L'été, soudain,
fleurs,
il eut un coup de folie
fleurs,
pour les radis,
de fleurs.
L'été,
de fleurs,
soudain, il eut un
de
coup
fleurs,
de folie pour les radis,
de fleurs,
de fleurs.
De fleurs.
5 cm sur
fleurs.
10 cm
de fleurs.
Photo d'un jaguar bondissant entre deux séquoias. 5 cm sur 10 cm. Photo d'un jaguar bondissant entre deux séquoias. Le cerveau s'épuise. On ne vit pas de même façon à 12 000 km à l'heure.
T'épuise.
Le cerveau s'épuise.
T'épuise.
On ne vit pas de la même façon à 12 000 km à l'heure.
T'épuise.
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 La nuit. J'imaginais un renard. Juste mon reflet. Fenêtre, la nuit. J'imaginais un renard, juste mon reflet, juste mon reflet, juste mon reflet.
Inventer
juste
le futur
juste
n'est
mon reflet,
ni reçu,
juste
ni
reflet,
donné,
juste
mon le
reflet,
est du chemin,
juste mon reflet,
juste
inventer
reflet,
le futur
juste
n'est
reflet,
ni reçu,
mon reflet,
ni donné,
juste
mon le est du chemin. Presque perdu dans une forêt d'atomes, ma bien-aimée. Presque perdu dans une forêt d'atomes, ma bien-aimée.
Pleine lune,
pleine lune. Je préfère le triangle au carré,
disait-il.
Pleine lune,
pleine
lune,
pleine.
Je préfère le triangle au carré, disait-il.
Pleine lune,
pleine
lune.
De quelle langue
pleine
ont besoin
lune,
les gens qui ont perdu
lune,
leur langue?
Pleine lune.
De
pleine
quelle langue
pleine
ont besoin
lune,
les gens qui ont perdu
lune,
leur langue? Théorie des cordes. Y a-t-il supersymétrie entre mort et vivant? Théorie des cordes. Y a-t-il supersymétrie entre mort et vivant? Tri entre mort et vivant. 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 Les grosses pommes rouges jaunes pendant notre absence. Entre mort et vivant. Entre mort et vivant, elle tombe dans l'herbe. Les grosses pommes rouges jaunes pendant notre absence. Entre mort et vivant, tri entre mort et vivant, emplie de tristesse comme une bouteille vide au ras des yeux. Emplie de tristesse comme une bouteille vide au ras des yeux. Racine, tout ce qu'on ne voit pas d'un très grand arbre. Racine, tout ce qu'on ne voit pas d'un très grand arbre. Auto disparu de la surface de la planète. Surface de la planète.
Des gouttes de rosée
de la planète. Surface de la planète.
Auto disparu
de la surface de la planète.
La planète.
Surface de la planète.
De rosée.
Surface de la planète. Surface de la planète. Surface de la planète.
Longtemps oublié.
De la planète. Un souvenir me revient à travers le grillage. Longtemps oublié. Un souvenir me revient à travers le grillage. Horizontal. S'abandonner à nouveau au paysage. Horizontal. S'abandonner à nouveau au paysage. S'abandonner à nouveau.
Voilà, c'était Arrêt de temps et des haïkus de Jean Antonini sur une musique de Jacques-Marie Bernard. Sachez que ce travail fera l'objet d'une exposition visible du 1er au 16 août de 15h30 à 19h au Temple de la Boissonnade à Moissac. C'est en partenariat avec les Églises protestantes unies de France, la commune de Moissac-Vallée-Française et l'association Embrun. Je vous rappelle les dates, 1er au 16 août au Temple de la Boissonnade à Moissac. Haïku de Jean Antonini et peinture de Roger Grolon. Et nous retrouvons à présent Cécile Guivarche pour sa chronique mensuelle.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui, je me pose une question d'importance avec la poésie. Je me demandais, est-ce qu'on peut écrire sur des événements qui ne nous appartiennent pas, sur la guerre ou sur un conflit, une catastrophe naturelle ou humanitaire? Et j'ai lu trois livres, trois auteurs qui ont tenté de répondre à cette question. Alors, il y a Denis Audrey dans Bleu naufrage, élégie de Lampedusa, qui est paru à La Sirène étoilée. Il y a Nicolas Grégoire, Face à Mordette, paru aux éditions Centrifuge. Et Sabine Huyn aussi, qui a tenté de répondre à cette question avec La Sirène à la poubelle aux éditions Ifraction. Alors, Denis Audrey, dans Bleu naufrage, il évoque le naufrage donc de 2013 à Lampedusa. Et cet accident, on en a parlé dans les journaux, à la télévision, à la radio. Puis, on enterrait les morts. Mais Denis Audrey, lui, n'a pas publié ces hommes et ces femmes, ces images qu'il avait vues à la télévision. Et il écrit depuis ce jour-là à un enfant dont il avait aperçu le cercueil blanc. Et il dit ainsi, « Je t'appellerai 15, c'est peut-être ton âge. C'est le numéro sur ton cercueil. » Donc, il évoque dans ce livre Exil, racisme politique. Tout cela est abordé de façon délicate et directe. Et c'est un livre empli d'humanité. L'incompréhension est toujours vive pour lui. Pourquoi cette indifférence de la part des politiques par rapport à tous ceux qui sont morts? C'est un livre pour la liberté, pour la dignité. Et pourtant, Denis Audrey écrit ainsi, « J'ai honte de transformer la mort, la tienne surtout, en poème. » Il écrit un peu plus loin, « Indignez-vous. » Donc voilà, pour Denis Audrey, je pense que la clé de pourquoi écrire sur quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est justement de ne pas rester à se croiser les bras. Pour Nicolas Grégoire, dans « Face à mort d'être », il dit « Écrire à partir du génocide » ou plutôt écrire avec le génocide. J'ai l'impression qu'on est toujours trop à côté. C'est toujours qu'avec ma terrible part d'étranger que le Rwanda apparaît dans mes textes. En effet, Nicolas Grégoire, il a passé plusieurs années au Rwanda et il a ressenti ce besoin d'écrire sur le génocide qu'il y avait eu là-bas. Il a écrit des poèmes avec retenue, les mots sont hachés. Et quand on le lit, on comprend toute la difficulté d'écrire sur ce thème, de poser des mots sur ces événements qui ne devraient pas avoir un visage d'homme. Mais pourquoi il écrit ? Comment oublier ? Comment nier ce qui s'est passé au Rwanda quand on le traverse en étranger ? C'est pour ça que Nicolas Grégoire écrit pour ne pas laisser passer l'horreur dans les silences. On ressent aussi une sorte de pudeur, une culpabilité d'écrire sur ce qui s'est passé là-bas et qui ne lui appartient pas. Au fil du livre, le sentiment se renforce, mais en même temps, la langue se délie. Et ça nous permet de vraiment ressentir cette nécessité qu'il a eue d'écrire face à l'horreur pour se souvenir, pour évacuer aussi et pour ne pas laisser le silence envahir la parole. Il se pose des questions toujours, comment écrire avec, quelle place on peut tenir pour ne pas taire encore, mais dire. La culpabilité d'être malgré soi, parmi ceux qui se taisent ou n'ont pas voulu savoir. Donc Nicolas Grégoire, en écrivant sur quelque chose qui ne lui appartient pas, sur le génocide du Rwanda, lutte ainsi contre la honte, avec quand même la peur de sonner faux, mais malgré tout, son livre est d'une très grande sincérité. Après, il y a Sabine Wynne, dans La sirène à la poubelle, elle nous apporte d'autres éléments de réponse sur le rôle du poète et de la poésie. Elle a écrit par rapport au conflit qu'il y a eu en Israël de juillet à début novembre 2014. Donc Sabine Wynne vit à Tel Aviv et elle a commencé à écrire sur son compte Facebook et sur Twitter et puis ensuite sur son blog à la façon d'un journal sur le conflit en Israël. Mais elle, en étant sur place. Ce sont donc des jours de guerre qu'elle a traversés. Elle a vécu en tremblant et elle a permis aussi à ses lecteurs de vivre en tremblant ces pages d'histoire et de peut-être les comprendre, les appréhender d'une autre façon que par les médias. Comme elle le dit, ce n'est pas la vision vendue par les médias, mais la vision de Sabine. Quelques amis se sont adressés à elle et lui ont dit ainsi. Le langage poétique vous entraîne et vous dépose là-bas, vous fait sentir, toucher, pleurer. Le poète s'adresse à vous et à vous seul, alors que la presse s'adresse aux masses. Il nous faut un ami qui soit là-bas, sur place, au cœur de la tourmente. Un ami qui puisse partager ce qu'il ressent avec nous. En quelque sorte, Sabine Wynne est devenue une envoyée spéciale de la poésie. Et pour terminer, je voulais juste vous citer la dernière anthologie qui est parue aux éditions Bruno Doucet, qui s'appelle « L'insurrection poétique, manifeste pour vivre ici ». Donc une anthologie qui rassemble un grand nombre de poètes, 110, d'aujourd'hui et d'hier, d'ici et d'ailleurs, et qui est aussi un livre incontournable pour ceux qui s'interrogent et s'engagent en poésie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Au revoir Cécile, nous te retrouverons à la rentrée comme les autres chroniqueurs de La Route Inconnue. Je vous l'ai dit en début d'émission, un événement éditorial n'est pas passé inaperçu. François de Cornière était au marché de la poésie de Saint-Sulpice à Paris, l'occasion de présenter son dernier livre, Nageur du Petit Matin, publié aux éditions du Castor Astral, dont la revue des charges, notre partenaire, avait publié Les Bonnes Feuilles il y a quelques temps, je crois que c'était en début d'année. Je me propose à présent de vous faire découvrir ce livre poignant, un livre dans lequel François Cornière revient sur la maladie de son épouse décédée depuis lors. C'est un livre évidemment sur le deuil, mais c'est un livre aussi sur la force de vie, sur l'espoir, sur la beauté du monde, sur la beauté de l'existence. Voilà quelques extraits de Nageur du Petit Matin de François de Cornière. À la fenêtre. Quand je te laissais le soir à la clinique, après tes opérations, je traversais toujours la rue avec mon vélo. Du trottoir en face, je cherchais la fenêtre du palier du troisième ou quatrième étage, une fenêtre rectangulaire, toute en hauteur. Dès que tu pouvais te remettre debout, je savais que tu y serais. Je t'apercevais dans le cadre, tu me faisais des signes. Je te répondais par des gestes du bras, un baiser de la main. Il allait faire nuit, il faisait déjà nuit. Je pédalais jusqu'à la maison, été comme hiver, avec cette image de toi à la fenêtre de la clinique. Elle me fait mal, mais je ne l'oublierai pas, puisque de là-haut, tu me fais toujours signe. Dans l'ambulance, tu avais voulu quitter cette chambre, cette clinique que tu connaissais trop depuis tant d'années. Le matin de ton transfert à l'unité de soins palliatifs, une place venait de se libérer, notre fille m'avait appelé. Tu souhaitais que je monte avec toi dans l'ambulance. Nous avions pris le périphérique, nous étions passés par le viaduc, au-dessus de la rivière et du canal, nous étions redescendus sur la voie express qui conduit à la mer. Nous avions tourné à droite, traversé un quartier en chantier, nous avions pris sur la gauche jusqu'à l'entrée du parc. L'ambulance s'était arrêtée sur le côté du bâtiment. Ils avaient descendu ton brancard, ils t'avaient conduite en fauteuil jusqu'à la chambre 3. La porte était ouverte, la fenêtre donnait sur le soleil. Tu avais l'air soulagé d'être arrivé là. Moi, la nuit, maintenant, je refais le voyage. Le sens des retours à ma fille Caroline. On allait nager tous les deux, surtout le matin, tôt. La mer était à un quart d'heure. Avec nos palmes bleues et roses, nos bonnets de piscine, on se donnait des buts. La toute dernière bouée, le poste de secours, telle maison sur la digue. On nageait, on nageait. À 8 heures du matin, il n'y avait que nous. On se réchauffait le cœur en ayant un peu froid. Ensuite, on allait au bar de la Brèche ou sur le port, à la marine. Grand café et croissant pour le père et sa fille. En route vers le centre de soins, les infos donnaient la météo des plages, les conditions de circulation dans le sens des retours. La terrible journée avançait. Nous pensions à elle. Le passé s'en allait lentement, trop lentement. L'ampoule rouge au-dessus de la porte disait qu'il fallait qu'on attende. L'objectif. L'après-midi, je venais à vélo, en longeant le canal où des pêcheurs pêchaient des poissons que je n'ai jamais vus. Au centre de soins palliatifs, je regardais toujours vers la fenêtre de la chambre 3, celle du petit vase sur le rebord, avec ses fleurs des champs. J'attachais mon vélo, je montais vite l'allée du parc. Ces grands arbres, ce ciel si bleu, le plus bel été, disaient les journaux. Au début, tu pouvais sortir un peu, on te débranchait. Nous allions jusqu'au banc près de la mare aux poules d'eau. 1 heure, pas plus. C'est là que nous sommes pris, sur notre dernière photo. Je suis derrière toi. Je t'entoure de mes bras. On regarde l'objectif. On ne s'était rien dit. On savait bien ce qu'on faisait, pendant que c'était encore possible. Garder ta montre. Je te regardais. Tu dormais profond. Ta bouche ouverte sifflait un peu. Ton dos calé par un traversin. Tes pauvres jambes et ses chiffres rouges, ses écrans verts, hypnovène, morphine, en continu, à volonté. De mon rivage en sky, j'entendais les mouettes sur le canal. Parfois des infirmières dehors qui se souhaitaient un bon week-end. Je pensais à notre mère, à nous, au petit port breton où je te conduirais, où nous irions nager une dernière fois ensemble. J'étais peu en avance sur ma mémoire, tu sais. Toi, tu voulais jusqu'à la fin garder ta montre à ton poignet. Sur la pelouse en pente, à mon fils Julien. Et puis nos enfants et nos petits-enfants étaient venus te voir cette fin d'après-midi. Tu avais pu sortir dans le parc. Notre fils avait porté des fauteuils de jardin sur la pelouse en pente, pas trop loin de ta chambre. Le temps de cette sortie, on t'avait enlevé tes perfusions. Les petits couraient sous les arbres, ramassaient des bouts de bois, s'amusaient à se cacher. Tu ne les quittais pas des yeux. La journée avait été splendide. Là-bas, derrière les peupliers, on voyait des bateaux de plaisance qui remontaient le canal. Sur le chemin de halage, des cyclistes revenaient de la mer. C'était la vie en ce dernier mois d'août qui passait, qui filait. Sur la pelouse en pente, nous formions avec toi comme un cercle invisible, mais j'avais l'impression que c'était toi et toi seul qui nous entourait tous. Je n'oublierai jamais la pièce. Tu avais pu sortir du centre de soins. Il t'avait équipé d'un appareil que tu portais en bandoulière. Tu avais eu droit à une demi-journée. J'étais venu te chercher. Nous avions déjeuné dans le jardin, à l'ombre du grand parasol. Nous étions tous là. Tu nous avais regardé manger. Après le repas, tu étais rentré dans la maison. Tu n'avais pas pu monter dans la chambre. L'après-midi, les petits avaient préparé un spectacle dans ton atelier. J'avais mis deux spots. Ils avaient installé des tabourets, des chaises de camping. Pour toi, ils avaient réservé un vrai fauteuil au premier rang. Ils avaient distribué des tickets d'entrée. Étienne t'avait placé en te prenant par la main. Il avait fait une sorte de révérence. C'était pour toi, tout cela, de leur part. Ils avaient compris. À la fin, ils avaient salué, nous avions applaudi. Je t'avais regardé. Je n'oublierai jamais la pièce. C'était la dernière fois que tu sortais. C'était nous. Les petites avaient fait des dessins sur des feuilles de papier que j'avais épinglées au mur de ta chambre. Il y avait un gros chat, un bonhomme en parachute et sur une plage au soleil, un pêcheur et sa femme. C'était nous. Sur le tableau Véléda, je m'étais dessiné en train de nager le crawl. Notre fils s'était fait en tennisman et notre fille en danseuse. Nous avions ajouté chacun nos numéros de téléphone pour qu'on nous prévienne. Le matin où j'ai tout enlevé, tout effacé, tout déchiré, j'ai eu envie de pleurer, mais ta valise était déjà prête. Je suis seulement allé te voir dans une pièce plus loin, vérifier si ta robe était bien celle que tu voulais. Bon courage. Le téléphone avait sonné en pleine nuit. Pas besoin de parler. J'avais pris la voiture et je m'étais annoncé par l'interphone. L'infirmière m'attendait. J'étais resté une heure avec toi dans la chambre et puis j'étais rentré jusqu'au matin. Le livret de famille, des papiers à signer, des affaires à ranger. Dans la pièce prévue pour les derniers départs, j'ai embrassé ton front, si froid déjà. L'infirmière m'a souhaité bon courage. La mer n'était pas loin du centre de soins. J'ai nagé comme jamais dans l'eau grise et houleuse de ce 3 septembre. Je crois que j'ai crié très fort. Il faut dire que j'étais le seul dans l'eau et que le ciel, ce midi-là, était très menaçant. J'étais là. Je croyais pouvoir ne jamais écrire sur ta mort. Question de pudeur ou de dignité. Pendant toutes ces années, opérations chimiothérapie, hospitalisation, urgence, je t'avais accompagné. Toujours c'était toi qui montrais la voie. Terrible faiblesse de ma part, aujourd'hui j'ai écrit. J'étais debout au pied de ton lit, ta respiration trop rapide, ta bouche entr'ouverte, tes yeux partis. Et je comptais les trous du bracelet en plastique qu'ils avaient mis à ton poignet lors de ton admission. Je n'avais plus que cela pour m'accrocher encore à notre vie ensemble. Ton poignet, un bracelet, quelques trous. Et ce poème, maintenant, pour demander trop tard, sentais-tu que j'étais là? Pour la cérémonie, tout s'était passé comme tu l'avais souhaité. Tu avais choisi tes musiques et deux textes. Éric avait lu le second, celui de Béatrix Beck. J'avais réussi à lire le premier, qui était de toi. Tu ne pouvais plus écrire, tu nous avais dicté ta page sur ton lit, chambre 3. Tu évoquais ton jardin, tes statues en coquillage, tes expéditions sur les grèves, ton monde minéral, végétal, amoureux à la fois. Les mots chantés par Césaria Evora et Marisa Monte avaient dit pour finir « Edoce morer nomar ». À côté de moi, Ma petite fille Lola avait eu le courage de pleurer à grosses larmes. Heureusement qu'on se tenait la main pour déposer sa fleur sur ton cercueil. Je revenais seul, mi-septembre, dans notre maison du bord de mer. J'avais fait toute la route sous la pluie. Combien de fois dans ce village tu m'avais dit « Un jour il faudra s'arrêter au petit restaurant ?» Combien de fois pressé d'arriver je t'avais répondu « Plus que 10 kilomètres, allez, on continue !» Mais aujourd'hui j'ai ralenti. J'ai garé la voiture sur la place près du restaurant. J'ai respiré. J'ai marché. Plein soleil maintenant. Au bout du monde, près de la fenêtre, c'est ma douleur qui s'est assise. En face de moi, un seul couvert. L'urne et tes cendres à l'arrière dans la voiture étaient cachées sous la couverture bleue. Tu avais laissé des lettres que je devais remettre à ceux que tu aimais et des petits paquets comme des cadeaux de toi. Tu avais eu le temps depuis plusieurs années de tout prévoir, tout préparer puisque tu t'en allais. Je m'en vais, c'était toujours ce que tu écrivais sur un bout de papier quand tu essayais un nouveau stylo. La veille de notre départ pour les urgences, tu savais que tu ne reviendrais plus dans notre maison de la mer. Comment avais-tu eu la force d'accrocher en pleine nuit et sans que je le voie ce petit miroir juste au-dessus de l'évier? Je l'ai découvert en revenant. Le « je t'aime » de ton écriture y est enfermé dans un cœur transparent. Une flèche le traverse. Elle me vise à jamais. Je recopiais toujours la craie sur un tableau noir au mur de la cuisine, les horaires des marées. Le matin du 15 septembre, je m'étais levé, il faisait encore nuit. Le sac à dos préparé la veille n'était pas lourd. J'avais pris en plus ma serviette de bain et mon appareil photo. Je ne suis pas allé directement au petit port. J'ai voulu faire le circuit qui était le nôtre, la plage, la pointe, la crique, et passer par le chemin des chèvrefeuilles. En haut du petit port, j'ai posé mon vélo contre l'arbre où nous nous attachions. Sur la plage, à l'abri des rochers, j'ai sorti les cendres, je me suis mis en maillot et j'ai marché jusqu'au bord. Personne à l'horizon. Le soleil se levait, la mer était basse. Quelques bateaux étaient penchés sur le sable mouillé. J'ai fait ce que tu voulais. Sur les photos que j'ai envoyées aux enfants, on ne peut pas me voir nager au loin. C'était refaire la route qui était difficile, la route de cette Bretagne où nous avions prévu un jour de poser notre vie. Je revoyais maintenant toutes ces années passées à faire la navette, tous ces moments de nous derrière le pare-brise. À la fin, il fallait souvent faire des haltes, couper la route. Mais tu voulais revenir vite. Même après les séances de chimio, je t'attendais à la clinique. Faire 300 kilomètres pour te réveiller là-bas demain matin. Au volant, j'ai croisé beaucoup de lieux d'avant. Notre passé présent. J'ai eu envie de freiner, même de faire marche arrière. Retrouver notre champ de pique-nique. M'allonger avec toi sur la couverture bleue, voir filer dans le ciel de grands nuages blancs et te dire que bientôt nous serons arrivés. Thank you. musique, Michael Oldfield, Tubular Bells, et les textes, François de Cornière, nageur du petit matin, qui vient de paraître aux éditions Le Castor Astral, un livre qu'il vous faut absolument lire de toute urgence. Voilà, ce sera la lecture de votre été. Je vous propose à présent d'écouter un peu de musique à nouveau. On va continuer avec Mike Oldfield, Crisis, et nous rejoindrons Claude Verset pour sa chronique mensuelle.
Thank you.
Et voilà, c'était Crisis, extrait de l'album éponyme de Mike Oldfield, Crisis, sorti en 1983, comme promis Claude Verset pour sa chronique mensuelle.
Bonjour à tous, bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, j'évoquerai la poète Luce Guilbeault, qui vient de publier « Mère ou l'autre » chez Tarabuste, éditeur que je nommais déjà, c'est vrai, dans ma précédente chronique à propos d'Antoine Emma. Mais bon, ce n'est pas si étonnant. Tarabuste, qu'on situera à Saint-Benoît-du-Sault, au centre de la France en gros, est un éditeur de référence et on y trouve bon nombre de poètes qu'il convient de lire aujourd'hui, dont Luce Guilbeault, j'y reviens. Laquelle, de longue date, fait de l'exploration des liens familiaux une matière privilégiée de sa poésie. En cela, elle n'est pas seule. Elle rejoint, par exemple, une poète que nous connaissons bien grâce à La Route Inconnue. Je veux parler de Cécile Guivarche. À ceci près que dans Mère ou l'autre, Luce Guilbeault nous parle non de son ascendance ou de ses aïeux, mais de son fils. Mais écoutons-la plutôt que de commenter. On te met l'enfant dans les bras, tu le prends, tu le tiens, ton enfant. Le tien, tu le regardes, c'est donc lui, celui-là, cet enfant-là, justement celui-là, et pour toujours, tu le choisis, c'est lui, ce sera lui, ce petit enfant-là, ton enfant. On aura compris l'histoire de cet enfant que Luce Guilbeault entreprend d'évoquer dans « Mère ou l'autre » ne commence pas, comme on s'y attendrait, par une naissance. Non, c'est l'histoire d'une mère adoptive et d'un enfant adopté, et au final, celle d'une mère adoptée, d'une greffe réussie en quelque sorte. Cette thématique, l'auteur l'avait déjà abordée à la vérité. C'est souligner combien elle lui tient à cœur. Et dès 2008, en effet, elle proposait une première approche avec « L'enfant sur la branche », un recueil plus spécialement destiné au jeune public dans la collection du Farfadet ou des Bleus, est déjà centré sur, je cite, « sur cet enfant d'un autre sang qui me fait mère quand je le nomme fils ». Aujourd'hui, dans son livre récent, elle écrit « L'histoire de cette enfance commence par des questions. Enfant venu d'où? Donné par qui? Il ne s'agit pas pour l'auteur ici, ni dans aucun de ses ouvrages, de révéler on ne sait quel lourd secret de famille, mais de mettre au clair pour elle-même et divulguer ce qui tend à demeurer des mi-mots, des vérités mal assises, de transmettre en termes les mieux pesés l'histoire familiale, d'en assurer la singularité et contre tout conformisme en faire monter le prix. Écoutez-la, bon, elle se vante quasiment. Quand les autres mères ne font qu'expulser l'enfant de leur corps, moi, la mère adoptive, je ne veux que l'incorporer pour que le réel d'un enfant de chair me soit donné. Je vous conseille de découvrir ce livre sensible, Mère ou l'autre, de Luce Guilbeault, de suivre page à page cette poésie méditative qui avance précautionneuse vers une vérité transmissible afin d'honorer la lignée. Oui, c'est chez Tarabuste, hein, vous avez bien retenu. Allez, à bientôt.
À dans 2 mois, très précisément, cher Claude, car vous le savez peut-être, nous offrons quelques vacances à nos chroniqueurs qui l'ont bien mérité. Et Claude fera des tas de provisions de lecture sur les plages ou chez lui dans sa campagne bourguignonne. Et il nous reviendra au mois de septembre avec les chroniques savoureuses qu'il sait si bien faire et dire. Un autre chroniqueur talentueux et fidèle, Patrick Jockel, voyons ce qu'il nous tire de sa musette.
Eh bien, bonjour pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Nous allons parler d'un auteur que j'aime beaucoup, un voisin, puisqu'il habite à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Il s'agit de Jean-Marie Barnaud, dont toute l'œuvre poétique est éditée aux éditions Chênes. Il s'agit d'un livre paru en 2014, Le don furtif. Cette partie dans ce livre, cette partie qui s'accompagne, qui vibre ensemble, c'est une des magies de Jean-Marie Barnaud, ses unités de ton, ses résonances entre les poèmes, ce qui permet de lire le livre en entier comme de s'arrêter sur une page indépendamment. Ce sont donc des textes qui sont indépendants mais qui restent en lien. Cet homme, Jean-Marie Barnaud, est en quête permanente. Ce qu'il cherche lui échappe. Comment nommer l'insaisissable, larcin furtif, joie, poésie, autant de mots qui jalonnent une œuvre publiée dans la collection verte. Une quête obscure aussi, se mettre au bureau, tout seul, s'enfermer, tenter l'écriture, avec en toile de fond les drames du jour. Les émigrants, par exemple, en ce moment, ceux qui frappent aux îles de l'Europe, viennent interpeller le poète, se glisser dans le poème. Barnaud n'est pas dupe, ces mots ne changeront rien à l'histoire. Mais les prononcer sauve quelque chose de l'oubli. La poésie, la perte, on y est encore, dans cet entre-deux furtif de la vie. C'est une vie d'homme aussi, une vie de passant. L'heure approche. On a mis le corps en coupe serrée. C'est le temps de la vieillesse. Tenir debout encore un peu, regarder sa vie. Qui pourrait prétendre qu'on est passé à côté ? Les dernières pages ouvrent l'avenir, rebondissent au-delà de cet horizon fermé pour tenir haut la flamme de cet incendie. Le don furtif, la vie. Un livre émouvant, poignant et juste, oui. De juste de la poésie comme je l'aime quand elle vient me chuchoter au cœur. Et je vais vous lire un des chants, le deuxième. Je dis chant parce que ce sont des textes qui sont assez longs chaque fois. Fin d'après-midi dans les collines, le chemin passe sous les chênes, sa pente par instinct court à la mer, on est encore au temps de Virgile comme à Rome sur la voie des tombeaux. Dans une faille à l'est monte au loin l'autoroute, les taches mobiles des voitures, toute la force et la vitesse de la vie maintenant, si loin pourtant que la rumeur ne trouble pas la paix des chaînes. Et puis la nuit. La page se contracte, son centre se soulève, révulsé. Quel feu passe sous toi, mon poème, et fait injure à ta patience. Tu vois la horde qui s'avance depuis toujours, et nous, les effarés, les naïfs, penchés une fois de plus au-dessus de l'horreur, ayant statué contre toute raison que, plus jamais l'horreur, ils cognent à la marge ces étrangers. Ils cherchent un asile et l'hospitalité. Et donc, que viennent ici sur ce blanc qui ne risque rien que son absence le cortège des blessures sur la terre de Syrie, laissant monter les échos de la force, la main qui s'ouvre ainsi n'usurpe rien, ne soigne rien et même pas sa honte. Elle trace seulement sous la dictée du temps une géographie du sang parmi les autres. La force lâche ses chiens et jamais ne désarme. De page en page, la main répète. Elle croit que c'est son honneur d'écrire simplement des noms dont seul le passé chante. Alep, Oula, Mazraat, Al-Kubayr, Homs, qui fut Émèse la brillante. Il témoigne que sous les ruines, au bout de tunnels où l'on avance comme des rats, les sleepers attendent. Halte là, crie la puissance aux barbares. C'est ici la limite, un pas de plus et nous frappons, nous sommes la justice. Ils font un pas, la puissance recule. Voilà, c'était un extrait du Don furtif de Jean-Marie Barnaud aux éditions Chênes et je vous souhaite un bel été.
À toi aussi, un bel été, à vous tous, chers auditeurs et tristes, un bel été. Alors, je dois à la vérité de dire que la route inconnue va se poursuivre, elle va prendre des petits chemins de traverse et cheminer durant une demi-heure toutes les semaines à la faveur de quelques petites lectures. Donc, ce sera une route inconnue format réduit, format vacances, hein, on va dire. Et bah, vous retrouverez évidemment tous vos chroniqueurs, toutes nos rubriques, lectures, interviews, à compter du mois de septembre, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et soirée à l'écoute de nos programmes. Et donc à très bientôt.
Faire comme. Faut faire comme la com, comme il faut. Faire comme, faut faire comme la com, comme les stars, comme le devoir. Faire comme, faut faire comme la com, comme tout le monde, comme tout le monde qui fait comme tout le monde. Faire comme. Faire comme la com. Faire comme toi, faire comme moi. Faire comme, faut faire comme.